Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Comme toutes les semaines, j'ai retrouvé mon équipe de spécialistes, de coachs et de spécialistes RH pour parler d'un sujet. Et cette semaine, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque nous allons parler du bonheur au travail. Et oui, le bonheur au travail existe-t-il ? Vaste débat que celui-là, et je peux vous assurer que les échanges pendant cette heure de débat ont été passionnés et passionnants. J'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi à écouter ce débat que j'ai eu à le faire. Bonne écoute ! Eh bien, bienvenue sur cette room Happy Work édition Clubhouse pour parler du bonheur au travail. Est-ce que le bonheur au travail existe ? Alors, c'est une grande question personnellement que je me pose depuis, plusieurs années. Et je dois dire, alors, sans spoiler toute la room de mon point de vue, je déteste ce concept. Voilà, je balance l'ambiance directe. Le concept de bonheur au travail m'énerve profondément parce que je pense que c'est une injonction extrêmement négative. Il y a plein de gens qui n'aiment pas leur travail. Et les amis, ce n'est pas grave parce que notre vie, ce n'est pas notre travail. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Donc bien entendu, vous serez les bienvenus sur le stage pour venir donner votre avis. Est-ce que vous connaissez le bonheur au travail ? Est-ce que vous souhaiteriez le connaître ? Ou est-ce que vous en avez strictement rien à faire et que vous vous dites « Déjà, si on connaît le bien-être au travail, c'est cool ». Le bonheur, on verra après. Mais comme d'habitude, je vais demander à mes chers amis modérateurs qui me font l'immense amitié d'être là, comme toutes les semaines, de se présenter rapidement. Donc là, je vais faire acte de galanterie, puisque je vais demander à la première, Léna Aka, de se présenter. Salut Léna, comment vas-tu bien ? Et qui es-tu ?
Salut Gaël, ça va très très bien. Qui je suis ? J'ai plusieurs casquettes. Je suis consultante en recrutement IT, je suis coach en conduite du changement, en leadership pour les managers et je fais de la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai également un podcast qui s'appelle Rendez-vous que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes.
Alors j'ai cru que tu allais oublier de parler de ton podcast et...
Ça m'arrive. Non,
mais je t'aurais relancé pour dire mais... Et ton podcast ? Les podcasts, c'est important. On est sur Happy Work, donc je ne vais pas dire que les podcasts, ce n'est pas important. Hervé Charles Léger, merci d'être là. Pareil, qui es-tu ?
Bonsoir Gaël, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Hervé Charles Léger, je dirige un cabinet spécialisé sur les ressources humaines, spécifiquement sur les risques psychosociaux, l'anticipation, la qualité du travail et l'accompagnement au changement sur les structures et les collaborateurs.
On accueille également Emmanuel Moreau en tant que modérateur. Emmanuel, comme les deux autres, présente-toi. Qui es-tu ?
Alors, Emmanuel Moreau, consultant en recrutement, business developer pour la société Workwell Together et à mes heures perdues, j'écris sur des problématiques RH.
Super.
Je n'ai pas de podcast.
Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, tu sais.
Exactement.
Oui. Alors, les amis, on va parler de bonheur au travail. Donc, en introduction, je disais que moi, j'étais très dubitatif sur ce sujet. On va garder le même ordre qu'au début. Léna, quand on te dit bonheur au travail, ça t'évoque quoi ?
Bon, alors moi, je vais lancer un pavé dans la mare. J'y crois pas du tout. À moins, et je te rejoins sur le fait que ça c'est certainement ressenti comme une injonction, à moins de vivre un métier passion comme les sportifs de haut niveau, comme peut-être les chanteurs, etc. Pour moi, viser le bonheur au travail, c'est une quête perdue d'avance. Voilà.
Ok, donc là, le débat est posé. Hervé Charles, toi, est-ce que c'est même sentiment ou est-ce que le bonheur au travail, ça peut exister ?
Alors, j'aime pas, effectivement, comme toi et Léna, l'injonction bonheur au travail. Il y en a qui c'est beaucoup plus compliqué. À l'inverse, moi j'ai la chance d'avoir du bonheur au travail au quotidien. D'ailleurs, je ne le considère même pas comme un travail, mon activité, et je rencontre des gens sur la qualité de travail ou les risques psychosociaux qui ressentent cette notion effectivement de bonheur au travail. Et si on a le temps, on verra tout à l'heure, je vous donnerai quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. Quand on lui demande son métier, il m'a expliqué qu'il était heureux au travail. J'avoue, j'ai pas bien compris, j'imaginais pas comment il pouvait l'être. Et quand il m'a expliqué le pourquoi, je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est assez surprenant, je dirais ça tout à l'heure. Mais oui, le bonheur au travail, effectivement, ça peut exister. Un, je le vis à titre personnel, mes collaborateurs n'ont pas l'air malheureux depuis 13 ans, et tous les gens que je rencontre, bah, effectivement, ça se travaille. Par contre, effectivement, ça se travaille, c'est alors, pas inné. Le bonheur n'est pas inné au travail.
Hervé Charles, avant de donner la parole à Emmanuel, je vais être un peu provocateur, tu commences à me connaître, j'aime bien titiller. Est-ce que tu ne crois pas au bonheur au travail, d'une certaine manière, par obligation professionnelle, en tant que patron d'une entreprise, en disant, si moi, boss d'une entreprise, je ne crois pas au bonheur au travail, bah, mes salariés ne vont pas être motivés. Est-ce que ce n'est pas une obligation professionnelle, d'une certaine manière?
Eh bien non, même pas. Non, j'ai choisi mon métier.
Ah, t'es vraiment sincère?
Ah oui, je suis vraiment sincère. C'est-à-dire que on l'a déjà dit plusieurs fois dans les rooms, on vient de la même génération où il y en avait 5 ans derrière nous, si on n'était pas content, on dégageait et voilà. Et je me suis toujours, effectivement, j'ai travaillé et j'ai surtout travaillé à me sentir bien, à faire exactement ce que j'avais envie de faire. Et c'est une chance incroyable, je sais pertinemment, j'en suis largement conscient. Non. Je n'ai absolument jamais de pression. Non, effectivement, je suis heureux quand je vais au travail. J'ai la chance,
c'est génial.
Ça fait quand même 13 ans, j'ai une entreprise qui fonctionne correctement. J'ai la chance aujourd'hui de choisir aussi mes clients, de dire non, je ne veux pas. À partir du moment où ça ne rentre pas dans les clous, dans les cadres, je n'enverrai pas mes collaborateurs et je n'irai pas moi-même. J'ai une chance absolument incroyable, je le sais, et j'en suis conscient. Et oui, le bonheur au travail, je le connais depuis 13 ans.
Mais c'est hyper intéressant, et je pense que ça va servir de base au débat entre ce que tu as dit, et ce que Léna a dit, et ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a vraiment matière à débattre. Et toi, mon cher Emmanuel, c'est quoi, si je te dis bonheur au travail, ta première réaction, c'est quoi?
Ben moi, j'ai connu le bonheur au travail... Pas sur un poste comme Hervé Charles de responsable de société, mais comme éducateur auprès de personnes handicapées. Alors un métier, comme on dit, c'est presque même pas un métier, c'était une vocation. Et effectivement, c'est peut-être mes 20 plus belles années où j'ai connu vraiment le bonheur au travail, l'envie d'aller travailler, de se donner, enfin ouais, c'est puis pas payé cher, mais heureux d'être, et c'était un bonheur de travailler auprès de mes personnes handicapées, vraiment.
Alors, avant de reprendre la parole, Léna veut rebondir, donc Léna, je t'en prie, rebondis.
Oui, je suis désolée. En fait, je pense que ce serait intéressant justement de revenir peut-être sur la définition que chacun donne au bonheur. Pour conclure ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut se sentir bien dans son travail, on peut se sentir épanoui, aimer ce qu'on fait. Alors, bien entendu, heureusement, beaucoup de gens ressentent ces sentiments. Mais pour moi, le bonheur, c'est quelque chose d'encore différent, qui ne va pas forcément avec le mot travail et le fait d'aller travailler en cherchant le bonheur. Moi, c'est quelque part ça qui me pose problème. Et souvent, je me dis, si on parlait de bonheur au travail, il faudrait pouvoir répondre à la question. Est-ce que si je n'étais pas payé, je serais heureux d'aller faire ce que je fais? En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
Alors, c'est une super bonne remarque et je vois qu'Hervé Charles a ouvert son micro. Mais Hervé Charles, juste avant de te donner la parole, je voulais dire quelque chose parce que, en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Et j'avais écrit un article là-dessus sur pourquoi est-ce qu'on travaille. Et en fait, j'avais créé une pyramide de Maslow de nous au travail. Et la pyramide de Maslow, donc c'était un sociologue qui avait expliqué voilà, quelles sont les motivations pour vivre au début. Et en fait, il expliquait que les hommes préhistoriques, leur premier souci, c'était bouffer, s'abriter. Rien de plus. Premier étage. Au travail, c'est pareil. On travaille en premier pour se nourrir, pour payer nos loisirs, pour payer notre logement. Et après, si on arrive à un certain niveau là-dedans, on va commencer à s'intéresser à la réalisation de soi, etc., etc. Et à avoir une quête, peut-être, vers le bonheur. Moi, le problème que me pose cette notion de bonheur au travail, Je ne sais pas vous dans vos vies perso, mais je trouve que le bonheur est une quête permanente. Et que cette quête permanente nous force à un moment à se dire « ça peut être encore mieux après ». Et qu'au travail, déjà, si on se contentait du bien-être, quand on est dans un pays où, juste pour rappel, il y a 2 semaines, on nous a annoncé les chiffres, 2,5 millions de salariés français sont en burn-out. Alors, je ne veux pas m'inscrire en faux par rapport à ce que dit Hervé Charles sur « il connaît le bonheur au travail », mais la réalité, c'est « est-ce que ça doit être un objectif ?» Donc Hervé Charles, je te pose la question, mais d'abord, je crois que tu voulais réagir à ce que disait Léna, et après, tu réponds à la question du « est-ce que le bonheur au travail doit être un objectif absolu pour tout le monde ?»
Alors, premier élément, effectivement, sur la définition du bonheur au travail. On a tous une échelle différente et une perception différente du bonheur. Il va falloir pour chacun trouver effectivement les éléments qui vont lui permettre de s'épanouir. Ça, c'est l'élément important. J'entendais Léna qui parlait de la rémunération. Oui, effectivement, on travaille tous parce qu'on a besoin de payer nos factures, besoin de vivre, besoin de sortir, etc. Mais là, ça renvoie sur un vecteur important qui est la motivation. La motivation va rejoindre, en quelque sorte, le bonheur au travail. Et la rémunération est de très loin. Je crois qu'il doit arriver 4e ou 5e position dans les motivations des collaborateurs. Ce n'est absolument pas le premier. Ce n'est pas la rémunération qui vient en premier. Le premier, souvent, qui est cité, c'est la reconnaissance. Être reconnu. Alors, si on fait un peu de psycho, effectivement, il y a 3 éléments importants pour l'humain. C'est aimer, être aimé et être reconnu. C'est ce qu'on appelle effectivement les éléments de Schultz. Mais voilà, ça, ce sont les éléments, encore une fois, elle a tout à fait raison, chacun a ses marqueurs qui vont définir son bonheur au travail. La question, tu peux me la répéter, pardon, je fais 2 choses à la fois. Même si je suis un homme, je suis capable, mais là, j'ai un peu oublié la question, pardon.
Et voilà, j'ai oublié la question, mon cher Richard.
Bon, mais je vais aller faire un tour à l'EHPAD, je vous prends une chambre de...
Attends, il faut que j'essaie de me rappeler. Est-ce que Léna ou Emmanuel vous rappelez de la question parce qu'elle était, vraiment. Oui, non, c'est bien sûr. Ça y est, je me rappelle de la question, Hervé. Est-ce que le bonheur au travail doit être un objectif absolu pour tout salarié ou est-ce que on peut être un salarié totalement bien dans ses baskets en disant moi, mon bonheur au travail, je m'en fous, c'est un truc juste alimentaire et mon bonheur, je vais aller le chercher dans ma vie perso. Est-ce que le bonheur au travail est un absolu en termes de recherche?
Forcément que non.
Ah, alors c'est hyper intéressant. Chacun, alors explique-moi,
chacun, Richard. Chacun va y trouver son plaisir. Ou effectivement, il y en a qui vont y aller en se disant, mais moi je vais gagner, comme le disait Léna, je vais gagner de l'argent qui me permettra de faire du bateau parce que le bateau c'est ma passion et ça me permettra de le financer. Mais chacun va trouver effectivement ses motivations par rapport à ça. Mais de se dire effectivement, il faut absolument que tout le monde soit heureux au travail, en injonction, je l'ai dit en préambule, même si j'ai la chance, parce que je le sais, d'être heureux dans ce que je fais, pour moi le vrai bonheur au travail, je l'ai en permanence. Néanmoins, ça ne devient pas une injonction. Ce n'est absolument pas une injonction et ce n'est absolument pas obligatoire. Ce qui paraît par contre obligatoire, et là forcément c'est le cas de mon travail, c'est la qualité de vie au travail. C'est un petit peu différent.
Pardon, j'étais en train d'essayer de faire monter quelqu'un, mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Oui, alors je te rejoins complètement Hervé Charles, bien entendu. Mais c'est très important ce que tu dis, c'est qu'il y a des gens qui peuvent connaître le bonheur au travail, mais c'est cette injonction, parce que j'ai le sentiment quand même, et j'aimerais bien avoir la réaction d'Emmanuel et après de Léna sur cette injonction, j'ai l'impression quand même depuis 3-4 ans qu'il y a des business qui se montent autour de cette injonction, de dire, en gros, si tu connais pas le bonheur au travail, pardon pour ma vulgarité par avance, pardonnez-moi, si tu connais pas le bonheur au travail, t'es qu'une merde. Et ça me dérange profondément. Emmanuel, c'est quoi? Je t'en prie, Hervé Charles, je t'en prie.
Et je te rejoins complètement. Complètement. Encore une fois, qualité de vie au travail et bonheur au travail, ce sont 2 choses différentes. Et moi, ce qui effectivement m'insupporte, pardon, c'est qu'on a vu il y a quelques années arriver ce qu'on appelle des shows, des chief happiness officers, des obligations en fait d'être heureux au travail. Et j'ai trouvé ça d'une absurdité. Il y en a qui font très bien leur travail, hein, qui donnent du bien-être au travail. Mais imposer pour des recrutements, comme je l'ai vu pour certains, ces fameux shows, Chief Happiness Officer, j'ai trouvé ça complètement invraisemblable par rapport au monde de l'entreprise.
Ouais, je crois, tu sais, que la dénomination, parce que les Chief Happiness Officer, bon, il y a tout et n'importe quoi, et on en parlera très probablement, peut-être avec Amy, Et peut-être avec Kamel, à qui on va donner la parole juste après. Je crois que la dénomination est mauvaise parce que les Chief Happiness Officer, au final, leur vraie mission, c'est le bien-être au travail. Emmanuel, ta réaction par rapport à ce que vient de dire Hervé Charles, et après on donne la parole à Amy et à Kamel.
C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on est, justement, tu m'as coupé un peu l'herbe sous les pieds, Hervé Charles, j'allais parler des fameux postes, les CHO et tout ça. Enfin, c'est, il n'est pas nécessaire, enfin, il n'est pas nécessaire d'être heureux dans son travail, d'être. Mais c'est vrai que c'est quand même. Moi, je vois là, je discutais avec un responsable d'un bureau de recrutement qui me disait, moi j'ai besoin que mes employés soient alignés dans la même perspective que moi, qu'ils soient vraiment heureux au travail, sinon je ne les recrute pas. Il y a une espèce d'alignement aussi.
Ouais, mais la notion d'être heureux, Emmanuel, c'est quand même tellement subjectif, moi déjà.
Ça ne veut rien dire, c'est vrai que pour moi ça veut rien dire. Alors, c'est vrai que ça ne veut rien dire, mais là, je lisais un article, une étude plutôt de Warwick, je ne sais pas de quand elle date, et qui disait que les personnes heureuses, à l'aise dans leur basket au travail, ont un niveau de productivité supérieur à 12% par rapport aux autres.
Oui, non mais ça s'appelle le bien-être, et je pense que le mot bonheur est très différent du bien-être.
On comprend les deux, effectivement, ouais. S'il y a quelqu'un sur le stage qui aurait une définition du bonheur, je trouve ça intéressant.
Mais justement, Emmanuel, on va donner la parole à Amy et à Kamel juste après. Je voudrais juste avoir la réaction de Léna avant, les amis. Alors Kamel, j'ai vu que tu as ouvert ton micro, mais on va donner d'abord la parole à Emma. Parce qu'on n'est pas en pop-up, c'est ça? Non, popcorn, pas pop-up, ça y est. On n'est pas encore vendredi, je dis déjà des énormes bêtises. Ma chère Léna, est-ce que tu trouves que c'est finalement la définition du mot bonheur qui pose problème?
Oui, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que si déjà on atteignait le bien-être, ce serait déjà énorme. Je pense que le mot bonheur est un peu utilisé à tort et à travers. Et là où je suis en profond désaccord avec ce que Hervé Charles a dit, c'est qu'effectivement, ce qu'Hervé Charles disait, c'est que les gens, que le salaire n'est pas le premier critère, mais là, on parle justement à l'embauche, c'est-à-dire que quelqu'un qui va choisir un travail ne va pas mettre, en tout cas de façon majoritaire, l'argent n'est pas le premier critère. Ce que, par contre, dans un contexte plus large, à moins d'être rentier ou d'avoir gagné au loto, on est obligé de travailler. Donc, oui. Dans ce contexte-là,
Non, mais je t'en prie, Léna, parce qu'en fait, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je suis hyper partagé, parce que je pense que ce qu'a dit Hervé Charles rejoint un petit peu ce que tu dis, mais je comprends que tu sois pas d'accord avec Hervé Charles. Je sais, c'est très paradoxal, mais je pense que vous dites la même chose. On travaille pour le fric en premier, et après, une fois qu'on a le minimum...
La question, c'est que si on n'avait pas à travailler, est-ce qu'on irait travailler?
Tu sais, dans mes conférences, Léna, oui. Je pose toujours cette question. Si vous gagnez 150 millions d'euros à l'euro million, qui continuerait à travailler exactement de la même manière? Donc, en général, tu as 300-400 personnes devant moi. T'as le PDG qui lève la main histoire de faire le faillot, mais personne lève la main. Personne lève la main, bien entendu. Mais c'est évident, bien sûr.
Donc si ça rendait heureux, on irait gratuitement, on est d'accord.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, Léna. Alors, on va peut-être donner la parole à Amy pour savoir ce qu'elle en pense. Amy, bienvenue sur le stage. Merci d'être montée.
Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je crois que c'est la deuxième room que vous réalisez sur ce sujet. Et du coup, j'en ai profité cette fois-ci pour lever la main.
Mais tu as bien fait.
En fait, concernant le bonheur au travail, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas obligatoire. Néanmoins, c'est une option qui est quand même assez plaisante à avoir. Je m'explique. Parce qu'en fait, être heureux dans son travail, ça peut, le bonheur peut agir en tant qu'anesthésiant.
Je veux dire par là que... Pardon de t'interrompre, Amy, C'est horrible ce que tu dis. Agir comme anesthésion, ce qui signifie que c'est une énorme douleur de travailler quand même.
C'est exactement là où je voulais en arriver.
Ah la vache.
C'est qu'en fait, travailler, c'est douloureux. Pour autant, une douleur, d'un point de vue physique, ça fait mal, mais il y a des douleurs que l'on tolère pour arriver à un certain résultat. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez par exemple les artistes que vous préférez, ça peut être le défunt Johnny Hallyday, ça peut être Beyoncé, Michael Jackson.
Alors, Amy, vu que tu me parles, il faut que je t'avoue quelque chose. Parle-moi des frères Gallagher. Voilà. Oasis, Amy.
Oasis, ah, voilà.
Toi, je vais te descendre du stage dans 2 secondes.
Et ben, prenons voilà,
il y a un problème générationnel, là, Gaëlle. Hein.
Léna, je te déteste aussi. Je vais te virer du stage.
Eh bien, prenons ces personnes-là. Je suis persuadée que ces personnes aiment leur métier en tant qu'artiste, surtout que j'ai cité des personnes qui réussissent dans ce domaine.
Eh bien, Amy, je m'inscris en faux. Parce que, est-ce que tu connais cette expression pour les artistes, le club des 33? Le club des 33.
Oui, c'est les personnes qui meurent.
Qui se suicident. Donc, tu as Kurt Cobain, Amy Winehouse.
C'est le club de 27.
C'est pas le 33? 27,
non,
pardon.
C'est le club des drogués plutôt.
Oh, ça va.
Excusez-moi, c'est le club des 27.
Le club des 27. 33, c'est Jésus-Christ, pardon. Le club des 27. Et en fait, comme quoi, ce que tu dis, Amy, sur le rapport entre le bonheur et la notoriété, parce que tu fais un métier, il y a ce club des 27.
Non, c'est pas ça. Pardon. C'est pas ça. Je ne voulais pas du tout dire ça. J'ai pris l'exemple de ces artistes pour vous dire que ces artistes aiment leur métier, d'autant plus que les artistes dont je vous ai cité réussissent dans ce métier. Mais je voulais pas parler de la réussite. Ce que je voulais dire par là, c'est que si on prend par exemple Beyoncé, lorsqu'elle effectue un concert de 2 heures, elle s'entraîne pendant des mois. Beyoncé, c'est une performeuse qui chante, qui danse en talons, qui varie de 5 à 10 cm, qui fait littéralement du sport devant nous. Et donc ça, c'est une souffrance physique sur le moment. Quand elle chante et qu'elle danse, ça se trouve, après la prestation, elle a mal au dos, elle a mal aux pieds, elle a mal partout, mais après, elle est équipée de différents médecins, un peu comme
enfin, elle a le choix, Amy.
Oui, mais attends. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, le fait que ce métier la passionne et la rend heureuse fait que du coup, la douleur qu'elle ressent, eh bien, ça passe. Tu vois, c'est tolérable. C'est parce qu'elle gagne des millions, elle est célèbre, elle prend du plaisir à chanter, elle prend du plaisir à danser. Donc du coup, au final, danser sur 10 cm de talon, oui, ça fait mal, mais c'est pas ça. Et donc, du coup, c'était juste un exemple pour dire que quand on est heureux dans son travail, ça agissait comme un anesthésiant.
C'était ah, d'accord.
C'était une illustration.
Ok, parce que quand tu parles de ça, moi, je pense à mon agent de caisse de chez Franprix. Je suis désolé, mais j'adore mon agent de caisse de chez Franprix. Je suis fan des gens qui travaillent dans mon Franprix d'à côté. Je les adore. Et sérieusement, c'est comparer Beyoncé à ces gens. Tu vois ce que je veux dire, c'est il y a quand même.
Mais la question c'est est-ce que le caissier est heureux? Parce que moi ce que j'ai dit dans ma phrase c'est que si tu es heureux, ce bonheur va agir en tant qu'anesthésiant. Mais si tu ne l'es pas, dans ce cas-là la douleur, la souffrance, tu vas la ressentir fois mille. Elle est là la nuance.
Hyper intéressant. Alors je vois qu'Hervé Charles a claqué son micro et après Hervé Charles tu rebondis. Et après on donne la parole à Kamel. Hervé, je t'en prie.
Eh bien, je vais vous donner l'exemple que j'ai commencé à donner en préambule quand je me suis présenté. On parle de bonheur au travail et c'est quelqu'un qui a utilisé le terme de heureux à son travail. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, je me demandais comment il pouvait aimer ce qu'il faisait. Il vide des fosses sceptiques. Ouais, vous avez bien entendu, tous les jours, il vide des fosses sceptiques.
Alors Hervé Charles, parce que moi, en tant que vieux, je sais ce que c'est une fosse sceptique. Peut-être pour les plus jeunes, peux-tu rappeler ce que c'est une fosse sceptique? Et sérieusement, le fait de parler de fausse sceptique sur Happy Work, je crois que j'aurais jamais fait. Donc, merci Hervé Charles.
Mais je t'en prie, moi non plus. Mais c'est un exemple qui est tellement flagrant. Alors, pour les jeunes, quand vous n'avez pas tout à l'égout, vous avez effectivement un système d'évacuation personnel et individuel. Voilà ce qu'est une fausse sceptique. Et de temps en temps, faut les faire viser. En gros, c'est ça. Ça va, j'ai bien résumé, gars. Je ne me suis pas trompé sur le.
Alors, moi, je ne te trouve pas assez concret. Une fausse sceptique, c'est ça qui vire la merde, en fait.
C'est ça, voilà. De chaque maison, de chaque appartement. Exactement. Individuel, enfin généralement les maisons. Et lui, en fait, je devais auditer l'entreprise, et il m'a expliqué qu'il était heureux dans son métier. Et il vidait avec son camion tous les jours les fosses septiques. Et là, je lui dis, mais attendez, là, il va falloir m'expliquer. Et il m'a tout expliqué. Alors, le fonctionnement, oui, mais surtout son sentiment d'utilité. Et il me disait, mais moi, le sourire des gens, quand je repars, ça vaut tout l'or du monde. Il n'était pas super payé, et ce n'était pas une question d'argent, sa motivation. Et bien évidemment, je lui dis, mais vous aimeriez faire autre chose, vous souhaiteriez améliorer votre travail. Non, j'aime toujours le regard des gens, le sourire des gens. Et je me suis dit, mais il a tout compris, parce que sa motivation, c'est ça, c'est d'aider les gens, simplement. Et quand on avait discuté, il m'avait dit qu'il avait il n'avait pas pu faire, effectivement, des études d'infirmier, d'aide-soignant, et peu importe, et qu'il avait vraiment cette notion et ce sentiment d'utilité. Vider les fosses septiques, il pouvait être heureux dans son travail. Je vous laisse mettre en perspective.
Non, mais c'est très, très chouette. Tu sais, ça me rappelle, et juste après, mon anecdote, qui va durer une minute, on donne la parole à Kamel. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage avant d'entrer en école de commerce. On devait faire des stages ouvriers. Et j'avais été bagagiste en 3-8 à la SNCF de Grenoble. Et je me rappellerai toujours, mais toute ma vie, il devait être presque minuit, gare de Grenoble, un 15 août. Donc, autant vous dire, c'est une grosse ambiance à la gare de Grenoble, pour celles et ceux qui connaissent. Et il y avait mon patron qui était là et qui avait l'air super heureux. Et je fais, mais... Et moi, j'étais minot, je devais avoir 17 ans, 18 ans. Et je fais, mais c'est pas trop dur. Parce que pour moi, dans mon schéma, j'allais rentrer dans une des plus grandes écoles de commerce de France. Enfin voilà, le côté, t'as un peu le melon. Tu te dis, forcément, les petites gens, c'est horrible leur vie. Et là, il me regarde et il me fait, écoute Gaël, moi, ça fait 20 ans que je suis bagagiste à la SNCF, en 3-8. Et mon énorme bonheur, c'est quotidiennement de savoir que si je fais bien mon travail, les gens vont avoir le bagage quand ils vont aller en vacances. Et je participe à leur bien-être et au fait qu'ils passent de bonnes vacances. Donc j'adore mon travail. Je me suis pris une tarte dans la figure d'un coup. Là, ça m'a fait retomber dans mon espèce de piédestal, on va le dire, de gros bourgeois, intellectuel à deux balles, qui se dit que le bonheur au travail, c'est forcément lié à une forme de confort. Parce que honnêtement, bagagiste en 3-8, c'est pas confortable du tout. Sauf que lui m'a expliqué pourquoi il adorait son travail. C'est un petit peu comme ton histoire de fausse sceptique, mon Hervé Charles.
C'est exactement ça.
Ouais, exactement. Donc c'est au final la reconnaissance dans le regard des gens qui fait que tu vas finir par aimer ton travail. Mais il y a quand même ce débat sur aimer son travail et le bonheur au travail, et peut-être que Kamel va nous apporter un éclairage sur ce sujet. Kamel, bienvenue sur le stage. Merci d'être monté. Es-tu là, Kamel ?
Oui, je suis là, bonsoir.
Salut.
Salut bien, merci pour vos idées. Alors, je dois répondre sur la question, c'est ça ?
Ah mais oui. Tout à fait, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu penses du concept de bonheur au travail ?
Bon, il faut juste au début définir le mot bonheur. Alors, il n'y a pas une définition exacte du bonheur, c'est relatif. C'est relatif à chaque personne. Par rapport au bonheur au travail, chaque personne aussi a son définition du bonheur. Alors, il y en a des gens qui ont une définition du bonheur de travail avec un bon salaire, et il disait, j'ai un bon salaire, alors je suis heureux, malgré tout ce que je fais. Il y en a des gens qui n'ont pas du bonheur au travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas du talent, alors ils travaillent n'importe quoi. Donc ces gens sont obligés. Alors le choix de travail, c'est quelque chose de bien. Pour moi, le bonheur de travail, c'est avancer et créer des choses. Toujours créer quelque chose d'important et utilisable. C'est pas juste travailler pour travailler.
Oui, mais
je suis sur le côté créatif.
Kamel, la problématique que tu soulèves, c'est tout le monde ne fait pas un travail important. Et est-ce que pour autant, c'est grave ? Tu vois ce que je veux dire ?
Non, c'est pas grave. C'est juste, il y en a des gens qui acceptent ça. S'ils ont un bon salaire, alors c'est bon. Ils acceptent que c'est ça ce qu'ils travaillent, c'est tout. Peut-être qu'ils ont du bonheur parce qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise avec, dans leur zone de confort. Parce que si tu travailles dans des choses répétitives ou des choses qui ne sont pas importantes, alors tu seras dans une zone de confort et tu seras à l'aise. C'est bon, tu as ton bonheur. Tu es d'accord avec ça.
Mais c'est vachement important ce que tu soulèves comme question, Kamel. Parce qu'en fait, tu mets le doigt sur un truc comme quoi la notion de bonheur est quelque chose de totalement subjectif, il n'y a pas. Et c'est ça qui m'énerve dans les tenants de cette théorie du bonheur au travail, où c'est une quête absolue, il faut réaliser, il faut trouver du sens à son travail. Et ce que dit Kamel, et j'aimerais bien que Léna, tu rebondis sur ce que vient de dire Kamel, est-ce que on peut finalement en avoir strictement rien à foutre du bonheur au travail si au final on trouve un bon équilibre? Et oui, je sais, je suis totalement focus parce que je pose la question à Léna, parce que je sais qu'elle est d'accord avec moi.
C'est malin, Gaël. Moi, je sais qu'effectivement, ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Donc, je pense qu'on peut trouver un équilibre, savoir pourquoi on fait les choses, trouver du sens. Pour moi, trouver du sens n'équivaut pas au bonheur. Hein. On peut aimer ce qu'on fait. Je trouve ça très démago, en fait, le fait de dire, voilà, on nettoie des fosses septiques, etc. Et puis, on peut aimer ce qu'on fait. Moi, j'en reviens à la question, mais si ce monsieur-là avait des millions sur son compte, est-ce qu'il continuerait de nettoyer les fosses septiques? Il y prendrait autant de plaisir.
Mais ça, alors, je t'arrête tout de suite, ma chère Léna. Parce que je pense que ça, c'est vrai de n'importe quel travail salarié. Honnêtement.
Bah oui, travail, c'est labor. Non, c'est pas ça. C'est douloureux.
Non, ça vient de tripalium. Le mot travail vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture que les Romains utilisaient pour punir les esclaves. Donc, de toute façon...
Donc, on est sur la douleur.
Non, mais bien sûr qu'on est sur la... Mais tu sais quoi? Alors, Amy, je vais encore aller plus loin. C'est... La première fois où on parle de travail dans la littérature, c'est le travail de l'accouchement, les amis. Dans la Bible, et ma mère était sage-femme, et toute femme qui a eu un enfant, le travail de l'accouchement, le résultat, c'est peut-être un bonheur, mais le travail de l'accouchement en tant que tel, on ne peut pas dire que ça soit un super kiff. Alors, il y a quelques femmes qui ont surkiffé.
Mais justement, ça revient...
Il y a pas mal de menteuses.
J'ai tenu tout à l'heure à savoir... Parce que ça rend heureux, enfin, pour la majorité, je l'espère, des femmes d'avoir d'enfants, que année après année, génération après génération, les femmes continuent de tomber enceintes.
Mais Amy, je suis totalement d'accord avec toi sur le lien que tu fais entre on accepte une douleur parce qu'il y a un résultat, que ça soit un résultat économique. Et j'aime bien, honnêtement, j'adore ta perspective parce que, in fine, ce que tu dis, c'est. Quelle que soit la douleur qu'on a au travail, on va y trouver soit un intérêt économique et purement économique, ou on va y trouver un intérêt artistique, tu parlais tout à l'heure de Beyoncé, ou un intérêt, mais je veux donner cet exemple de cet ouvrier à la chaîne qui, il y a quelques années, a gagné 15 millions d'euros au loto. Le mec a démissionné le lendemain de son boulot. Au bout de 6 mois, il s'est tellement emmerdé qu'il est revenu au boulot, mais... à mi-temps. Et que je pense qu'effectivement, la richesse dont tu parles, Léna, le côté « est-ce que si on est millionnaire, on continue à travailler ?» Je pense qu'on continue à travailler, mais d'une autre manière. Et c'est là où la question qui vient se poser, c'est non pas celle du bonheur, mais du bien-être. Et se poser la question du « est-ce qu'on se foutrait pas un tantinet, expression, bien, j'ai du mal à sortir les expressions de vieux ce soir, je suis pas très en forme. Est-ce qu'on ne se met pas trop de pression sur ces sujets-là? Et c'est là où je voudrais poser la question à Hervé Charles, qui est spécialiste des risques psychosociaux. Est-ce que le fait d'accepter que ce n'est pas une obligation absolue d'être heureux au travail et de connaître le bonheur au travail n'amène pas un peu d'apaisement au quotidien, de se dire « bah, si je ne suis pas hyper fan de mon travail, ce n'est pas finalement si catastrophique ». Hervé Charles.
Tout à fait d'accord, ce que je disais tout à l'heure en préambule, à partir du moment où c'est pas une injonction, c'est pas une obligation pour chacun. C'est absolument pas ça le bonheur au travail. Chacun est libre de trouver ce qu'il a à prendre dans le travail. Ça peut être la rémunération, même si je maintiens que c'est pas le facteur de motivation premier. Encore une fois, à partir du moment où on ne l'impose pas, comme un dogme en disant c'est le bonheur au travail, c'est le bonheur au travail, ben, ça me va très bien.
Est-ce que je peux rebondir sur ce que t'avais, la question que tu avais posée, Gaëlle, à
l'époque ? Mais Amy, rebondis autant que tu veux.
Oui, et je trouve que ça, c'est entre guillemets facile à faire lorsqu'on a un métier dit d'exécution, c'est-à-dire que en fait, on remplit des tâches et c'est le genre de métier où en fait, on peut arriver au travail en mode robot, on ne va pas trop réfléchir, on va juste soit ouvrir son PC, soit ouvrir son moniteur, soit ouvrir une chose où une liste de tâches nous est confiée et juste exécuter la tâche en mode robot et pas trop penser et ainsi se dire ok, je ne suis peut-être pas heureuse, je n'ai peut-être pas le confort dans ce travail, mais c'est pas grave, à 18h, à 19h, je termine ma journée, je rentre et je fais autre chose. Lorsque l'on exerce un métier dit plus créatif ou un métier où l'on doit gérer des personnes, là tout d'un coup, arriver en mode robot, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est difficile d'être créatif et d'être robotique en même temps.
Oui, mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est heureux ? Alors, Amy, non, pardon, je vais te poser une question. Moi, je suis écrivain, conférencier, j'ai a priori, pour beaucoup de gens, une vie qui est topissime. Je gagne très très bien ma vie, et pour autant, si on me dit « est-ce que tu es heureux dans ton travail ?», ma réponse c'est non, parce que la notion de bonheur au travail, c'est une quête permanente. Est-ce que je connais le bien-être dans mon travail ? Oui, j'aurais mauvaise grâce de dire le contraire, parce que c'est extrêmement confortable. Pour autant, c'est le fait d'être insatisfait et de ne pas être heureux qui fait que je continue à vouloir faire plus, encore plus, à aller conquérir d'autres territoires sur mes contenus, mais quand je dis je déteste ce concept de bonheur au travail, tu n'imagines même pas à quel point. Et pourtant, je suis dans un métier créatif.
C'est pas plutôt une recherche de nouveaux challenges, d'objectifs que tu as en train de...
Non, c'est juste au quotidien, mais je rejoins Léna. Je gagnerai 150 millions d'euros à l'euro-million demain, je dis pas que j'arrêterai ce que je ferai, du tout, mais je le ferai totalement différemment. Mais totalement, parce que moi je me réveille tous les matins à 5h du matin pour préparer mes posts sur les différents réseaux sociaux et je prendrai 150 patates, je te promets, ça serait pas le même rythme.
C'était pas par rapport aux propos que j'ai tenus, mais j'entends tout à fait. Parce qu'en fait, moi c'est quelque chose que je vis actuellement où là mon travail commence à devenir un peu pénible et je songe à en changer et qu'en fait je me dis de toute façon j'occupe un poste quand même d'exécutant et que en fait je vais au bureau, je suis en mode robot, j'arrive, j'allume ma boîte mail, je vois tout ce que j'ai à faire, je le fais, je pars et en fait mon bonheur c'est pas au travail que je le trouve, ok, mais je le trouve ailleurs.
Mais est-ce que c'est grave pour autant, Amy ?
Non, justement, c'est ce que je voulais en venir, c'est que c'est pas grave parce que je trouve que justement j'ai réussi à trouver mon bonheur ailleurs, ce qui n'est pas le cas des autres, et aussi parce que la fonction que j'occupe fait qu'en fait je peux être dans un mode robotique. Alors que je trouve que si j'aurais été dans un mode où je devais créer, le fait de me rendre dans un bureau, dans un job qui vraiment me donne pas du tout envie, mais en fait, je serais devant l'ordinateur ou devant, je sais pas, un papier. Moi, je pourrais pas. Par exemple, tu as dit que tu étais écrivain. Moi, je pourrais pas être écrivain si je suis pas du tout heureuse. Parce qu'en fait, ça va me stresser. Tu veux que je parle de quoi, en fait ?
Ah, mais écrivain, c'est horriblement stressant. Parce que tu passes un an à écrire un truc, tu sais pas ce que ça va donner derrière. Et je vois que Kamel a fait claquer son micro pour réagir sur ce que tu viens de dire, Rémi. J'imagine. Kamel, tu as la parole.
J'ai une question à toi, Gaël. Pourquoi on se force dans le travail ? Pourquoi on essaye de... Je pensais que chaque personne a des buts à atteindre. C'est pourquoi on force dans le travail et après on ne trouve pas le bonheur.
Mais Kamel, moi j'ai une réponse très très simple sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on travaille ? Juste parce qu'on est obligé, camarade. Comment est-ce qu'on paye nos loyers ?
Pourquoi on travaille, mais pourquoi on force... On travaille beaucoup d'heures. Pourquoi ?
Mais parce qu'on est obligé. Enfin, encore une fois, Moi, je suis un énorme militant contre, justement, les burn-out, contre le fait qu'on travaille trop d'heures, etc. Mais, encore une fois, Kamel, toi, tu vis où ? Tu vis en France ou pas ?
Non, je vis en Algérie.
En Algérie. Bah alors, je sais pas comment c'est en Algérie, mais en France, ça fait des années qu'on met une pression de ouf sur les salariés en disant « Non mais attends, si tu travailles pas plus d'heures, il y en a plein qui veulent ton métier. Il y en a plein qui veulent ton travail. Donc si tu travailles pas plus, t'es viré, il y en a 10 qui veulent ton boulot. » Et cette pression-là, c'est une pression économique. Et je crois qu'en Algérie, il y a une grosse pression aussi. Je crois qu'il y a pas mal de chômage en Algérie, Kamel, je dis pas de bêtises.
Oui, c'est la même chose, mais voilà. Bon, je travaille à mon propre compte, donc
toi, t'es indépendant. D'accord.
Oui, je suis indépendant.
Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, du fait de la pression économique et du chômage de masse qu'on a connu pendant des années, alors c'est en train visiblement de chuter, et tant mieux, et on commence à reparler de plein emploi en France, mais à partir du moment où il y a du chômage, la priorité, c'est de bouffer et de faire bouffer nos familles. Et que tant que ça sera la priorité, c'est, je reviens à la pyramide de Maslow, on est au premier étage, payer nos loyers, payer la bouffe, et ensuite...
Donc ça sera une obligation, pas un choix.
Ah mais tu sais que... Alors juste, et là je vais poser la question aux modérateurs, Léna, Emmanuel et Hervé Charles. Juste pour information, il y a Google qui a une fondation dans laquelle, ils investissent des millions chaque année sur la notion de fin du travail. C'est-à-dire que Google nous explique que dans... Alors, les amis, ne rêvez pas, on ne le verra pas de notre vivant. Mais nous explique qu'une société dans laquelle personne ne travaillerait est une société qui va arriver. C'est-à-dire qu'à un moment, la notion de travail n'est pas une obligation sociale. Et il y a de plus en plus d'économistes et compagnie qui nous expliquent, mais à partir du moment... où on produit ce qu'il faut et que ça soit des intelligences artificielles et des robots plutôt que des humains qui produisent, au final, regardez tous les discours autour du revenu universel, de ces choses-là, il y a de plus en plus d'économistes qui nous expliquent, mais les amis, le travail n'est pas quelque chose dans lequel on se réalise. Ensuite, il y a une grande différence entre le travail et l'activité. Et c'est là où il y a peut-être une grosse différence à faire. Est-ce que... Alors voilà, je vais poser la question. Alors en premier, volontairement, on va remonter sur les modos Hervé Charles, Emmanuel, Elena. Mais Hervé Charles, est-ce que tu crois, toi, un jour, à la fin du travail ?
Comme disait Emmanuel tout à l'heure, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Non, j'écoutais, je ne connaissais pas. Mais effectivement, c'est dans les tuyaux, parce que l'idée du revenu universel va bien en ce sens, en disant il y a les gens qui voudront bénéficier du revenu universel et souhaiteront travailler, et d'autres qui se contenteront simplement du revenu universel et qui ne travailleront pas. Ça fait partie, effectivement. Alors, je ne connaissais pas cet élément sur Google, je vais regarder. Je crois que tu as mis les bons mots. Après, c'est la différence entre travailler et activité. On ne peut pas rester inactif.
Donc. Mais Hervé Charles, on est tellement d'accord.
On doit avoir une utilité aussi. Enfin, il me semble qu'on doit... Enfin, à creuser, mais le premier sentiment qui me vient, c'est de me dire... à quoi je sers. Et pour moi, c'est compliqué. On a tous besoin de ce sentiment d'utilité.
Alors, Hervé Charles, alors je vais être provocateur volontairement. Je suis d'accord avec toi. Et ma mère qui a arrêté de travailler pour élever ses 3 enfants, est-ce qu'elle a une utilité ? À quel point on a méprisé les femmes au foyer qui ont élevé des générations ? Et c'est un putain de travail. C'est peut-être un travail les plus importants qui existent. Et pour autant... la société telle qu'elle existe aujourd'hui ne reconnaît pas ça comme un travail.
Complètement d'accord, c'est absolument abject.
J'aime bien, et j'ai toujours adoré ce mot, abject. J'ai toujours adoré ça. Alors, avant de donner la parole à Olivier qui vient de monter sur le stage, je vous pose la même question à Emmanuel et à Léna.
Alors effectivement, tout le monde a besoin d'avoir une utilité, mais mon avis c'est qu'on peut effectivement... Tu as trouvé un très bon exemple, Gaël. On peut avoir une utilité en dehors du travail. Et moi, j'ai regardé un peu de plus près la notion de bonheur. Et ce qu'ils disent, c'est que c'est un état qui est constant de plénitude. Et quand on est salarié, on ne peut pas être dans un état qui est constant plénitude.
Léna, je sais que... Alors, je vais te poser une question. Et encore une fois, c'est totalement hypocrite parce qu'on est d'accord. Mais Mais qui connaît un état perpétuel de plénitude dans sa life? Enfin, à un moment, voilà, faut arrêter le exactement. Fantasme, quoi.
C'est une quête, bien sûr.
Voilà.
Donc, tu m'as fait perdre le fil. Quelle était ta question déjà, Gaëlle?
Et je ne sais plus, Léna.
Ah oui, si le travail va tend à disparaître. Bien effectivement, le travail, c'est une construction sociale. On a, comme tu revenais aux esclaves, on a donné du travail aux gens parce qu'il fallait bien que des gens construisent les trucs, que des gens souffrent, pendant que d'autres récoltent le produit de ce travail-là. Donc, sachant que c'est une construction sociale, ça peut tout à fait être déconstruit. Après, de quelle façon? Bon, c'est encore un autre sujet, et je laisse ça aux philosophes et aux économistes. Mais le travail, c'est une construction sociale, et c'est aussi une réalité. Il y a des personnes qui sont rentières, qui ne travaillent pas, et qui sont pourtant utiles parce qu'elles font d'autres choses. Donc, penser que l'utilité qu'on va trouver ou la seule forme de reconnaissance ou de bien-être dans sa vie, elle réside dans le travail, à mon sens, c'est une erreur.
Ouais, mais je suis tellement d'accord avec toi, et pourtant, Dieu sait si je suis pas marxiste, hein. Mais le côté...
Mais moi non plus.
Mais non, mais faut revenir faut relire Zola, en fait, pour peut-être se faire une nouvelle... Pour se faire un nouveau regard, il faut relire Zola, il faut relire Adam Smith, Ricardo, enfin, tous ces penseurs du 18e et 19e siècle qui réfléchissaient là-dessus pour regarder avec un nouveau prisme ce truc du bonheur au travail. Emmanuel, toi, est-ce que tu crois à la fin du travail et que le bonheur sera dans la fin du travail?
C'est trop compliqué pour moi comme question. Non, voilà, je ne sais pas quoi répondre à ça. Je ne crois pas à ça, non.
Ok, bah, au moins c'est...
Je peux laisser la parole à mon ami Olivier qui...
Mais si, Olivier qui vient de monter, on va lui donner la parole, s'il nous fait l'amitié de monter sur le stage, donc Olivier...
Je l'ai fait monter parce qu'en off, il me posait une question et j'ai dit, tu montes.
Eh bien Olivier, vas-y. La parole, Olivier.
Merci Emmanuel, merci, bonsoir à tous, Gaël et à toute l'équipe. C'est toujours franchement super intéressant.
Merci.
Ça, j'adore. En fait, moi, ce que je voulais simplement dire par rapport au bonheur au travail, c'était est-ce que finalement, c'est pas oser l'amour de soi, c'est-à-dire trouver l'équilibre vie privée, vie professionnelle et vie intime, comme on peut obtenir le savoir, le savoir-être et le savoir-faire.
Moi, je ne peux être que d'accord avec toi, Olivier. C'est pour ça que je déteste le concept de bonheur au travail, parce que ça serait comme un absolu. Je pense, et je l'ai vécu dans ma carrière, hein. Il y a des moments dans ma carrière où je me faisais profondément chier dans mon travail, et pour autant, j'étais heureux. Parce que je me réalisais dans d'autres moments dans ma vie, et que j'avais mis mon travail dans le côté alimentaire, et qu'il y a plein de gens, et que c'est pour ça ce qui me gêne dans ce côté bonheur au travail, c'est que c'est une injonction par rapport à plein de Français et de gens dans le monde entier qui bossent pour bouffer, et juste bouffer. Et cette injonction au bonheur au travail, c'est leur dire « Non mais les gars, vous avez rien compris. Hein. Le travail, c'est pas que pour bouffer, c'est pour connaître le bonheur. » Ben non. Et le bonheur, il doit être... Parce que j'allais dire, il peut être. Pour moi, le bonheur doit être ailleurs. Et pour autant, le bonheur, il est dans plein... Enfin, c'est une quête éternelle, comme le disait si bien Léna. Mais la finalité du travail, pour moi, et c'est pour ça, c'est... peut-être que je vais demander, puisqu'on va arriver vers la fin de la room, leur opinion à Hervé Charles, à Léna et à Emmanuel, sur est-ce qu'au final, il faudrait juste arrêter que ça soit une injonction et que chacun trouve son propre équilibre, comme tu l'as très bien dit, Olivier. C'est un moment... Il faut juste se poser la question du « Ok, ma vie, ça commence... Enfin, j'ai 24 heures par jour. Est-ce que j'ai un bon équilibre ?» Et équilibre au sens émotionnel. Tu vois ce que je veux dire, Olivier ?
Mais je pense même pas que ça soit une question d'argent. Parce qu'en fait, souvent, il m'est arrivé de rencontrer ça ou d'entendre ça, par exemple, « on n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on se marre ?»
Oui, mais ça, on le dit quand on a 20 ans, généralement.
Ouais.
Quand tu as des enfants, quand tu commences à avoir des emprunts, ce genre de trucs, moi j'ai rarement entendu des gens de 40 ans dire ouais, je gagne pas une thune, mais qu'est-ce que je me marre. Très franchement, l'angoisse par rapport à l'argent, elle existe peu quand tu as 20 ans, parce que tu te démerdes toujours, et manger des pâtes tous les jours, enfin, moi j'ai eu des périodes où j'avais pas une thune, ça me dérangeait pas. Maintenant j'ai 5 enfants, c'est pas la même blague, quoi.
Ouais, je comprends.
Il y a la notion de responsabilité qui met une pression de dingue.
Je crois que c'est la pression. C'est la pression, mais aussi professionnelle, la pression.
Bien sûr.
Du manager, enfin en tout cas de, du dirigeant, qui t'envoie vers ça, en fait. Cette difficulté à trouver le bonheur, finalement.
C'est clair. Alors, avant de conclure cette room, on accueille un petit cotillon. Donc, petit cotillon, alors pour les personnes qui écoutent le replay et qui ne connaissent pas Clubhouse, petit cotillon, ça veut dire quelqu'un qui est relativement nouveau sur Clubhouse. Donc, Cathy, bienvenue sur le stage et tu as la parole et tu seras la dernière invitée qui pourra parler.
Bonsoir, merci beaucoup.
Avec plaisir. Alors, qu'as-tu à dire sur ce sujet ?
Bon, je voudrais juste, parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train d'écouter Amy, surtout Amy. Oui, bon, moi personnellement, j'aime mon travail, mais je ne suis pas du tout heureuse au travail.
Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais expliquer ?
Oui, bon, d'abord, le travail que je fais, je suis aide-soignante. J'aime mon travail, je suis passionnée de ça, mais l'environnement est un peu tendu. Déjà, c'est un travail où, bon, ça dépend parce que ce n'est pas dans tous les hôpitaux ou bien dans tous les EHPAD. Ça dépend parce que je trouve que au niveau de la direction et aussi au niveau des collègues et tout, les gens ne sont pas reconnaissants. Il y a beaucoup de... Ils te font chier. Parfois, tu te lèves le matin pour aller au travail. Bon, tu n'as même pas envie d'entrer dedans parce que tu sais que l'environnement est tellement... Je ne sais même pas comment expliquer
ouais,
ça.
C'est toxique, en fait.
C'est toxique, c'est ça. Mais juste que j'aime le travail que je fais. Et aussi, je sais que il y a certains malades où je suis très attachée à eux. Et je sais que les soins que je leur fournis leur font du bien. Me voir aussi, ça leur fait du bien. Mais au niveau de l'environnement, les collègues, la direction, c'est très toxique. Parfois, je n'ai pas envie d'aller au travail, mais bon.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, Cathy, parce que je ne sais pas si tu étais là au début de la room, mais ça rejoint quelque chose que disait Hervé Charles, c'est au final, on a besoin de reconnaissance, on a besoin un moment au-delà de l'intérêt de notre travail, de l'amour qu'on peut avoir pour notre travail, s'il n'y a personne qui nous dit hey, « Hé, Cathy, on adore ce que tu fais bah, », à un moment, tu vas te dire bah, « j'ai plus envie de le faire », non ? C'est pas ça ?
C'est ça, et malheureusement, j'ai beaucoup de collègues. Ils sont là juste parce qu'ils attendent la fin du mois. Ils disent que, bon, de toute façon, la fin du mois, j'aurai ma paye. Bon, c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage d'en arriver là. Ouais, parce que pour les métiers d'aide-soignante, infirmière, ça doit être une passion d'abord parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. On est là pour les réconforter, prendre soin d'eux. Donc, on doit aimer ce métier et aussi on doit être heureuse pour pouvoir je sais transmettre ça, mais c'est dommage. On te fait chier. On n'est jamais reconnaissant. Et franchement.
Non, mais j'entends. Cathy, tu sais quoi ? Merci pour ce témoignage parce que justement, les soignants, et notamment en hôpitaux, moi je viens d'un milieu médical, ma mère était sage-femme, mon père médecin, enfin bref, je connais beaucoup, beaucoup d'infirmières, d'aides-soignants et compagnie. Et justement, ton témoignage est criant de vérité par rapport à la thématique de cette room qui va tirer vers sa fin, malheureusement. Mais justement, alors je vais embêter mon cher Hervé Charles, parce que est-ce que le témoignage de Cathy n'est pas la preuve absolue que le bonheur au travail est une foutaise à partir du moment où tu peux adorer ton travail au quotidien, mais que... Ben, il y a toujours peut-être un grain de sable qui vient ben, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'il y a ou il n'y a pas le salaire, ou il n'y a pas un autre élément. Et qu'à un moment, moi, ce que j'entends dans ce qu'a dit Cathy, elle aime son travail, mais elle ne connaît pas le bonheur au travail. Et au final, est-ce que ce monde idéal existe, en fait, Hervé Charles ?
Est-ce que le monde au travail, enfin, un monde idéal au travail, non, bien évidemment que c'est non. Je crois que ça résume, c'est stop à la dictature du bonheur au travail.
Oh,
c'est
merci. Absolument. Et Léna, mais, ça y est, Hervé Charles est dans notre camp. Ouais.
Absolument pas. Si vous reprenez, quand tu feras les montages, tu verras dès le départ, je dis à partir du moment où ce n'est pas une injonction.
Oui,
et je
bien
crois
sûr.
Que c'est Olivier qui l'a dit, c'est un équilibre à trouver. Pour conclure, je dirais hein, de toute façon, mais moi j'ai la chance de connaître, je l'ai dit en préambule, j'ai la chance d'être heureux au travail. Je ne suis pas un sacanoviste sur mon travail. J'ai la chance d'avoir trouvé un équilibre entre ce que je fais, les remerciements de mes clients, de nos clients, les remerciements de mes collaborateurs. J'ai la chance et je sais. Et encore une fois, j'ai cette opportunité aujourd'hui qui fait qu'on peut choisir nos clients, les GF, les gens avec qui on travaille. Ce qui est plus qu'une chance, hein. Un travail aussi, bien évidemment, de fond. Mais tant qu'on mettra ça comme une imposition, devait absolument être heureux au travail, ça sera non. Et pour compléter ce que j'ai parlé de ce que j'ai dit tout à l'heure, pardon, sur les shows, les Chief Happiness Officer, on avait demandé en 2017-2018, c'est là où ça a commencé à sortir, pour mettre du bien-être et surtout du bonheur dans le travail. Il faut savoir qu'il y avait une étude qui était sortie, c'est l'IFOP, si ma mémoire ne me trompe pas, en 2017, qui disait seulement 12% des salariés jugent pertinent effectivement la création de tels postes.
Ouais, alors là, je suis un tout petit peu plus partagé, mon cher Hervé Charles, parce que ça dépend du pouvoir qu'on donne aux CHO. Moi, j'ai vu beaucoup de CHO, notamment dans des startups où, en gros, ils étaient responsables chouquettes et dîner et soirée. Si le CHO, par contre, est rattaché à la direction générale ou à la DRH et s'occupe de la déconnexion, de l'équilibre vie personnelle, vie pro, en fait, il y a eu une... Enfin, voilà, ce titre de CHO a été dévoyé, malheureusement, par un tant nombre de startups qui ont fait juste... n'importe quoi, où t'es chargé chouquette et baby-foot, et le bien-être et le bonheur au travail, ça tient pas aux chouquettes et au baby-foot. On est d'accord, avec Charles ?
Non, complètement.
Ok. Alors, mon cher Emmanuel, ton mot de la fin.
Je suis là. Moi, j'ai une petite citation d'André Gide. La première condition du bonheur est que l'homme puisse trouver sa joie au travail.
C'est joli comme citation. Et donc, tu concluras la room là-dessus ?
Ouais, mais parce que, en fait, moi, je remercie Cathy de son témoignage. Moi aussi, j'ai été dans le soin pendant 20 ans. J'ai vraiment connu ce bonheur au travail. Je le disais en préambule aussi. Et ça peut vraiment exister. Enfin, moi, voilà. Avec une direction en or, parce que tous les directeurs d'établissements ne sont pas tous dans leurs chiffres. Il y en a qui placent l'humain au cœur. C'est ça. C'est ce qu'a dit aussi Olivier. C'est replaçons l'humain au cœur de nos organisations et peut-être qu'on pourra trouver justement aussi du bonheur au travail. Parce que pour moi, en conclusion, le bonheur au travail n'est pas contradictoire avec de la performance.
Eh bien, merci pour ces mots. Ma chère Léna, donc camarade opposée au bonheur au travail, ton mot de la fin.
Non, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est d'essayer d'être heureux déjà dans leur vie personnelle, de développer des hobbies, des passions, des plaisirs, peu importe. Et concernant le travail, d'essayer d'y trouver du plaisir. C'est déjà beaucoup, du sens. Et d'avoir cet équilibre-là, et je pense que ce sera déjà pas mal à ce stade.
Ouais, c'est très juste ce que tu dis, Léna, parce qu'en fait, je crois qu'on dit toutes et tous la même chose. Tout ça n'est que question de vocabulaire, et que le mot bonheur, c'est toujours ce que je dis, le bonheur est une quête, le bien-être est un état. Et ça, c'est vrai dans nos vies personnelles, comme dans nos vies professionnelles, et qu'à force de courir, on finit par s'épuiser, donc parfois, il faut peut-être se dire « Hey, je vais arrêter de courir et ça va bien comme ça. Est-ce que je peux être encore plus heureux ? Ouais, peut-être. Est-ce que je dois en faire un impératif ? Peut-être pas, parce qu'il y a des gens qui s'épuisent à courir. Mais en tout cas, ces discussions ont été absolument passionnantes. Donc, merci au modérateur qui était là, Léna Aka, Emmanuel Moreau et Hervé Charles Léger. Donc, n'hésitez pas à les follow sur Clubhouse, mais également sur LinkedIn, parce que ces trois-là sont très présents sur LinkedIn. Si jamais vous voulez les contacter, vous pouvez également. Merci beaucoup à Amy, à Olivier, à Cathy, à Kamel d'être montés sur le stage pour partager leur expérience. Eh bien, écoutez, la semaine prochaine, Alors, je sais, c'est rarissime, mais figurez-vous, et je crois que mes chers collègues Modo ne le savent pas encore, mais j'ai défini le thème de la semaine prochaine, c'est comment assumer ses imperfections au travail. Donc, si vous souhaitez assister à cette room, c'est jeudi prochain, donc pour parler de nos imperfections et de savoir du est-ce que je dois vraiment être parfait au travail ? Est-ce que je dois me flageller avec des orties fraîches toute la journée en disant « Oh, merde, je suis pas parfait ?» Donc, ça sera la semaine prochaine. Donc, cliquez sur la petite maison verte, allez activer la petite cloche sur la room. Et comme ça, ben, jeudi prochain à 18h, on se parle. Cette room sera en replay à partir de samedi matin sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., etc. Mille merci, les amis, d'être présents toujours. Mille merci de vos questions. Mille merci de vos DM, de tout ça. Et je finirai, eh bien, écoutez, comme chaque épisode de Happy Work, en vous disant, avant toute chose, prenez soin de vous. Léna, Emmanuel, Hervé, Charles, mes chers camarades modérateurs, mille merci et je vous souhaite une bonne soirée. Et contrairement à la semaine dernière, puisque nous sommes jeudi, je ne vous souhaite pas bon week-end parce que oui, il nous reste une journée. Allez, bonne soirée.
Et vive Bob. Bonne
soirée. Et oui, Benoît n'était pas là ce soir. Allez, bonne soirée. Je ferme cette room dans 4, 3, 2, 1. Salut les amis.